Salut à tous, c'est Pierre Chaffanjon de l'Atelier des médias. Je suis réalisateur à RFI maintenant depuis 5 ans. Vous avez déjà d'ailleurs peut-être pu entendre mon nom sur l'émission Radio Foot International. Je suis amené maintenant régulièrement à remplacer Simon lorsqu'il est absent. Je me permets également de m'adresser à vous pour vous parler d'un prix de journalisme, le prix Philippe Chaffanjon du reportage multimédia. C'est un prix qui a été créé par ma famille et des amis en hommage à mon père qui est décédé en avril 2013. Donc nous avons décidé de faire un prix qui tourne autour du reportage multimédia car mon père avait une passion justement des multimédias, des nouveaux médias. Il était grand reporter radio et également dirigeant. Les conditions pour participer à ce prix, il faut avoir moins de 40 ans. Également, la carte de presse, pour le coup, n'est pas demandée. Ce n'est pas du tout une obligation. Alors, le reportage doit être diffusé soit sur un site de presse français et ou haïtien dans le courant de l'année 2014. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller sur le site prixphilippechaffanjon.org ou tout simplement taper Chaffanjon, C-H-A-2-F-A-N-J-O-N, dans votre moteur de recherche.
Salut Pierre, et je précise que tu souhaitais parler de ce prix, en particulier pour nos auditeurs haïtiens, parce que vous recevez beaucoup de candidatures des auditeurs français, des journalistes français, mais très peu d'Haïti. Donc c'est l'occasion pour ceux qui nous écoutent en Haïti de participer à ce prix multimédia.
Et j'encourage justement les journalistes haïtiens à rentrer en contact avec la rédaction du Nouvel Liste qui se propose pour pouvoir héberger les reportages des journalistes haïtiens.
Et donc tu prends la parole parce que tu remplaces Simon, tu l'as dit, tu es le réalisateur de cette émission cette semaine. Nous sommes ensemble en mission et aujourd'hui, grâce à toi, nous emmenons nos auditeurs au Sénégal pour une émission spéciale sommet de la francophonie.
Très bien, Internet, qu'attendez-vous de nous ?
L'Atelier des médias, la web émission participative.
RFI.
Ziad Malouf, Simon Decreuze.
Et vous.
Depuis ce samedi et pour deux jours, la capitale sénégalaise accueille la conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays ayant le français en partage. En amont de cette rencontre qui permettra de désigner le secrétaire général de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, en amont de cette rencontre, plusieurs événements ont été organisés. J'ai pu assister notamment au 43e assise de l'Union de la presse francophone. Compte rendu de cet événement aujourd'hui dans l'atelier avec Jean Kouchner, secrétaire général international de cette organisation soixantenaire. Nous retrouvons Jean dans un instant. Le président sénégalais Macky Sall a clôturé ses assises et a accepté de se livrer à un jeu de questions-réponses en public avec des journalistes. Que pense-t-il de la révolution numérique ? Comment a-t-elle changé son activité d'homme politique ? Quand son pays adoptera-t-il un code de la presse qui préserve les journalistes de l'emprisonnement ? Regrette-t-il enfin l'expulsion du blogueur et opposant tchadien Makaylan Gebla? Réponse à ces questions et à de nombreuses autres dans 20 minutes juste après la pause.
Rejoignez la communauté de l'Atelier des médias sur Internet.
http://atelier.rfi.fr. Let's go.
Bonjour Jean Kouchner.
Bonjour.
Tu es secrétaire général de l'UPF. L'UPF, c'est l'Union de la presse francophone, c'est ça ?
Absolument, l'Union de la presse francophone qui regroupe à travers le monde, mais surtout évidemment dans les pays de la francophonie, les journalistes francophones et des médias francophones, ces journalistes et dirigeants.
Alors, en amont du sommet de la francophonie, tu as organisé avec les membres de l'UPF des assises du journalisme francophone ?
Oui. Qu'est-ce que c'est les assises ? C'est un terme un peu général. Il s'agit simplement pour les journalistes et les médias de se concerter et d'échanger des expériences autour de cette grande question qu'est l'arrivée du numérique. C'est pas nouveau, bien sûr, mais enfin, ça se pose de plus en plus avec une très grande acuité, l'arrivée du numérique dans les médias. Ça intervient sur la nature technique du support de presse, en général, mais ça intervient aussi sur les pratiques des journalistes. Et donc, l'échange des expériences, la réflexion sur les implications que ça a, c'est tout à fait essentiel.
Mais c'est une préoccupation qui est maintenant déjà ancienne. Enfin, ça fait au moins une dizaine, même peut-être une quinzaine d'années qu'on s'interroge sur l'impact du numérique, sur l'organisation du travail, sur le modèle économique, sur l'avenir des médias traditionnels, etc.
Oui, mais ça prend de plus en plus d'ampleur. C'est-à-dire qu'on est dans un système qui s'accélère. Il y a une naissance évidemment de supports, quels qu'ils soient, sur Internet, mais il y a aussi en même temps évolution des médias écrits eux-mêmes, évolution des radios, évolution des télévisions. Regardez par exemple en Afrique, l'arrivée du numérique, c'est pas il y a 15 ans. L'arrivée du numérique pour la télévision, c'est l'année prochaine, avec ce que ça comporte en termes de contenu, car évidemment c'est les contenus de l'information pour les journalistes, mais pas seulement. On n'est pas indifférent à la question de la place des cultures de chaque État, de chaque pays, de chaque peuple, sur leurs propres moyens d'expression. Or, si on n'y prend pas garde, eh bien, les investissements étrangers, les investissements, par exemple, chinois ou japonais ou anglo-américains, etc., etc., viennent interférer avec les cultures locales. Il faut que les États, et singulièrement les États francophones, aient les moyens de produire leur propre contenu sur ces nouveaux médias.
Alors on va parler du contenu de ces assises. Avant cela, peut-être un mot sur les intentions politiques, puisque vous avez organisé donc ces assises une semaine avant le sommet qui commence ce samedi 29 novembre à Dakar. J'imagine que ça n'est pas un hasard, qu'il y a une intention derrière cela d'interpeller les chefs d'État, de faire quoi ?
Oui, nous voulons interpeller les chefs d'État et nous l'avons d'ailleurs fait dans une résolution qui a été adoptée par les assises. Et nous avons demandé au président Macky Sall, président du Sénégal, d'être un peu quelque part notre porte-parole, de la porter au sommet des chefs d'État. Car évidemment, nous-mêmes, nous n'y avons pas accès directement. Nous voulons que cette voix soit entendue. Nous voulons que réellement les travaux, le contenu de nos travaux, ne soit pas un coup d'épée dans l'eau, mais soit bien quelque chose qui soit une revendication discutée, portée devant l'ensemble des chefs d'État de la francophonie.
Jeunes et médias, les défis du numérique, jeunes et médias, c'est le thème que vous avez choisi pour rassembler près de 300 personnes donc à Dakar pendant ces assises qui ont duré en gros deux jours de discussion, de rencontres et une demi-journée plus officielle. Pourquoi les jeunes et le numérique ? Pourquoi les jeunes d'abord ?
Ben, figurez-vous que le sommet des chefs d'État qui s'ouvre donc le 29 ce jour a mis à son ordre du jour les questions.
Les jeunes et les femmes.
Les jeunes et les femmes. Et par conséquent, on s'est interrogé en disant comment est-ce qu'on va juste avant le sommet s'emparer de cet ordre du jour. Et ben, c'est finalement peut-être pas un hasard. C'est qu'on peut pas simplement s'interroger sur la place des jeunes dans la francophonie sans s'interroger sur la façon dont les jeunes sont informés. Donc quel est le rapport des jeunes à l'information, notamment dans le cadre numérique? On nous dit que les jeunes, et d'ailleurs c'est sans doute souvent vrai, lisent beaucoup moins la presse écrite qu'avant, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas informés pour autant. Alors comment s'informent-ils ? Comment on assure un contenu qui soit un contenu fiable, un contenu vérifié, un contenu sourcé sur des supports numériques ? Voilà, c'est toutes ces questions qu'on a voulu débattre pour voir quels étaient les moyens à mettre en œuvre pour assurer une information ouverte et plurielle aux jeunes.
Donc vous vous êtes interrogé sur la manière dont les jeunes, entre guillemets, hein, parce que c'est pas toujours facile à définir, les jeunes
absolument
s'informent. Vous vous êtes aussi interrogé sur ce qu'on appelle le journaliste citoyen, le citoyen journaliste, lors d'un des débats de ces assises.
Comme je le disais tout à l'heure, quand on s'interroge sur la façon dont l'information parvient aux jeunes, comment elle est mise en œuvre, bah évidemment, force est de constater que sur Internet, on trouve toute une série de sites d'information, quelle qu'en soit la forme, encore une fois, qui sont mis en œuvre par des gens qui n'ont pas eu en soi une formation de journaliste. Alors moi je ferai plusieurs remarques. La première c'est que comme journaliste, moi je revendique depuis très longtemps le droit de me faire engueuler. Pourquoi ? Parce que ce que je mets en œuvre, l'information sur laquelle je travaille, c'est d'abord un droit des citoyens. On a le droit, quand on est citoyen, jeune ou pas, d'être informé. Et d'être informé dans un cadre qui soit un cadre pluraliste. Dans le cadre de la liberté de la presse, mais du pluralisme aussi. Alors, si je mets mal en œuvre ce droit qu'ont les citoyens, évidemment, ils ont le droit de me le faire savoir. Un des intérêts d'Internet, c'est que justement, ils peuvent le faire savoir beaucoup plus vite. Avant, le courrier des lecteurs dans un journal écrit, etc., c'était un peu plus long. En radio, c'est aussi un peu plus compliqué à gérer, encore qu'il y ait des émissions en direct, ça facilitait les choses. Enfin, voilà, là, il y a une souplesse qui est encore plus forte. Donc, premier point, je revendique le droit de me faire engueuler. Deuxième point, je ne dénie à personne le droit de vouloir mettre en œuvre lui-même un certain nombre d'informations. Évidemment, les citoyens doivent pouvoir en juger. C'est-à-dire que la qualité qui en sortira doit être contrôlée, et d'abord par les citoyens, et pas seulement. On reconnaîtra très vite le bon grain de l'ivraie. On saura très vite quels sont les bons sites qui vont se développer, car ils font preuve de déontologie, de contrôle de l'information, de qualité de mise en scène de l'information, et puis des autres qui, parfois, laissent courir des rumeurs, des choses comme ça. Donc, Voilà, je crois que la censure ne doit pas être établie à l'avance. Elle ne doit jamais être établie, d'ailleurs. Mais il ne faut pas, a priori, dire à un site, parce que ce ne sont pas des journalistes professionnels, qui n'a pas le droit d'être mis en ligne, bien entendu. Chacun a le droit de s'exprimer, et le meilleur gagnera.
J'ai assisté aux débats, aux discussions. Je peux dire que c'était très intéressant, les gens étaient très impliqués, parfois même enflammés par les débats, notamment sur cette question de qui est journaliste, qui est blogueur, alors que c'est un débat qui est maintenant assez vieux, hein, mais qui passionne encore, qui pose question, qui remet en question peut-être le rôle des journalistes, qui remet en question aussi la place des blogueurs, la qualité de l'information qui est partagée sur les nouveaux réseaux, etc. Qu'est-ce que c'est, toi, les enseignements que tu tires de ces discussions? Qu'est-ce que c'est ton regard? Tu as déjà donné quelques éléments, mais je veux bien que tu développes.
Je vais faire un tout petit détour pour dire que l'Union de la presse francophone, c'est une organisation qui est très ancienne, et elle a 60 ans, hein, c'est la plus vieille organisation de la francophonie, mais qu'elle avait finalement eu un dynamisme qui avait aussi été un peu usé par l'âge. Hein, elle avait quelques cheveux blancs, on va dire. Donc on a été un certain nombre, et notamment le bureau international et le comité international, à se dire qu'il fallait rénover tout ça, fallait dépoussiérer. Donc ces assises, pour nous, étaient les assises du renouveau. Nous voulons effectivement mieux et toujours plus collé aux réalités de notre temps et aux besoins des médias et des journalistes. Et je crois que ces assises ont fait la preuve qu'on était dans le vrai. C'est-à-dire que la façon dont les gens se sont exprimés a bien montré qu'il y avait pour eux un espace d'échange et d'expérience formidable dont ils se sont emparés. C'était notre désir. Et sur ce plan, c'est une réussite. Voilà, donc c'est le fond des choses. Après, est-ce que c'est dépassé ou pas? Moi, je crois que non, parce que il y a
est-ce une... que quoi est dépassé? Le débat?
Le débat lui-même, hein, c'est la question que tu as posée. Est-ce que c'est dépassé ou pas? Est-ce que c'est des questions qui déjà s'étaient posées il y a longtemps, etc. Ben, force est de constater qu'un certain nombre de journalistes n'avaient pas participé de près à ce type de débat. Donc, ça correspond aux besoins. Les questions telles qu'elles ont été posées par eux. Par exemple, on a demandé aux gens dans les différentes tables rondes les interventions liminaires soient le plus faible possible pour que l'espace du débat soit le plus large possible. C'est ce qui s'est passé, et je peux vous dire, pour avoir eu des retours de ces travaux, que les gens sont très satisfaits et en redemandent. Voilà, c'est un moyen pour eux aussi de s'exprimer. C'est un lieu, au fond, il y a beaucoup de journalistes, hein, et pas seulement en Afrique, bien sûr, parce qu'il y a 35 pays présents, tu l'as dit, mais des gens qui viennent d'ailleurs, c'est d'Europe centrale, du Vietnam, il y a des gens qui viennent de loin. Cet espace de débat et d'échange international était un besoin très fortement ressenti.
Moi, j'ai eu l'honneur d'animer une table ronde avec plusieurs intervenants, dont une majorité était blogueur, était connue comme blogueur, invitée en tant que blogueur. L'immense majorité n'avait pas fait d'études de journalisme. Certains exerçaient le métier journaliste. Ils étaient jeunes et plus ou moins jeunes, d'ailleurs. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on a pu te reprocher dans une... ça s'appelle l'Union de la presse francophone. Il y a vraiment une connotation journalistique forte. Est-ce que c'est quelque chose qu'on a pu te reprocher? De vouloir inviter justement des nouvelles formes de médias, de nouvelles manières d'explorer le journalisme ou les médias?
Personne ne me l'a reproché, ça c'est un signe intéressant, effectivement. Je vois pas pourquoi on me l'aurait reproché, car le débat a eu lieu sur les questions de fond. La réalité d'aujourd'hui, c'est celle-là. Il y a des blogueurs, il y a des gens qui mettent en scène de l'information de différentes façons, et c'est avec eux qu'il faut échanger. Et puis, sur la question des écoles de journalistes, ben, je vais te dire, j'ai pas fait d'école de journalisme. Et pourtant, j'ai dirigé un grand centre de formation de journalistes. Ça veut dire que l'expérience acquise sur le terrain, évidemment, assortie à l'échange avec un certain nombre de confrères, etc., cette expérience acquise permet de devenir journaliste. On ne naît pas journaliste, on n'est pas arbitrairement désigné comme journaliste, on le devient. On le devient par différents biais. Et un des participants, par exemple, disait qu'il lui aussi avait suivi la formation d'une grande école de journalistes, et pourtant il disait, et je l'aime beaucoup, mais à l'issue de cette formation, j'ai eu l'impression qu'il y avait un manque sur le plan de l'actualité du blog, avec tout ce que ça comportait. On m'avait moins appris ça. Et pourtant, c'est la réalité de l'information d'aujourd'hui. Alors, on a eu également une table ronde sur l'évolution nécessaire des formations, mais surtout, il ne faut pas opposer un grand journaliste sorti de l'université ou d'une grande école avec un grand J, et puis le petit non-journaliste qui, lui, aurait la prétention de mettre de l'information sur un blog, bien sûr, il a le droit. Et bien sûr, il apprend. Et il y a des lieux et des sites connus pour ça, singulièrement, par exemple, au moment des révolutions arabes, et aussitôt après, qui sont nés et qui informent de façon ouverte, libre, déontologiquement très correcte.
Parmi les autres thèmes qui ont été abordés, tu l'as mentionné, il y a eu la formation avec plusieurs représentants d'écoles du monde francophone, donc francophone au sens France et pays où l'on parle français, non pas sens souvent utilisé de ceux qui parlent français à l'étranger, donc de pays francophones. Il y a eu aussi l'économie des médias, les questions économiques. Il y a eu aussi le data journalisme, le journalisme de données, auquel vous avez consacré un atelier particulier.
Oui, alors c'est un atelier, il y a eu des interrogations là-dessus. D'abord, il y a des gens qui ne savaient pas ce que c'était que le data journalisme.
Donc rappelons que c'est, disons, un journalisme spécialisé dans la manipulation d'une grande masse de données, c'est-à-dire souvent d'informations numériques ou de chiffres, mais ça peut aussi être toutes sortes d'autres données qu'on va manipuler avec des tableaux, des tableurs et des choses comme ça.
Voilà. Donc les moyens aujourd'hui des ordinateurs, quels qu'ils soient, et de leurs liens entre eux sur Internet sont tels qu'on peut avoir accès à des sources d'informations précises, statistiques, etc., qui sont extrêmement intéressantes pour mettre en perspective un certain nombre d'informations. Donc c'est un outil dont on doit apprendre à se servir. Alors ça a surpris un petit peu et un certain nombre de participants ne s'attendaient pas à cela. Mais tous ont dit que ça avait un grand intérêt et qu'il fallait s'intéresser à ces méthodes. C'est-à-dire que vraiment, ils ont découvert, pour un certain nombre d'entre eux, car d'autres le connaissaient bien sûr, mais ils ont découvert un champ de possibles pour leur propre travail, tout à fait intéressant, avec toutes les réserves et la prudence qu'il faut avoir. D'abord, un journaliste, c'est un journaliste de terrain. Alors, il y a eu un grand débat. Est-ce que finalement, c'est pas être aussi un petit peu sur le terrain que de rassembler des données sur Internet et de les traiter d'une façon? Oui, ça fait partie de notre métier. C'est une partie, pas toute, mais une partie de la réalité.
On va conclure. Donc, il y a eu beaucoup d'idées, beaucoup de choses échangées, beaucoup de débats. C'était très intéressant d'avoir plein d'opinions divergentes sur ces questions liées au changement dans l'univers du journalisme. Quels sont pour toi les grands enseignements que tu tires dans cette idée de médias jeunes, numériques, ces thèmes que vous avez choisis pour ces assises? Quelles sont les grandes idées et peut-être les préconisations que vous faites, ou les demandes ou les conseils que vous prodiguez aux chefs d'État qui se réunissent donc ce samedi à Dakar pour le sommet de la francophonie?
Alors nous, on n'est pas dans la revendication syndicale, mais on est dans la revendication tout court. C'est-à-dire qu'effectivement, il nous semble nécessaire que les États s'intéressent de près au développement de l'information sur Internet, quelle qu'en soit la forme, et que les médias, et singulièrement les médias numériques, mais pas seulement, c'est pas exclusif des autres, aient les moyens nécessaires pour faire face aux enjeux, et notamment pour faire face à la nécessité de s'appuyer sur les cultures de chacun des pays, de chaque peuple. Donc il ne faut pas simplement se réjouir du développement technologique, des moyens de transmission Internet, mais il faut aussi aujourd'hui s'intéresser et soutenir la fabrication des contenus, que ce soit information ou pas, avec un souci qui est un souci permanent, extrêmement important, c'est le respect de l'indépendance des médias, parce que évidemment, il ne faut pas qu'une entreprise privée ou un État, quel qu'il soit, puisse, sous prétexte d'aide financière, intervenir dans les contenus. Il faut absolument que tous les médias aient cet espace de liberté nécessaire. Et puis, il y a quand même une autre question que nous avons évoquée, c'est la question de la suppression des peines privatives de liberté dans l'espace francophone. Ça nous paraît une question centrale. Il faut que les journalistes puissent exercer leur métier, sans qu'il y ait en permanence une épée de Damoclès au-dessus de leur tête.
C'est ce qu'on appelle la dépénalisation des délits de presse.
Oui, mais ce terme dépénalisation prête parfois à des confusions, parce qu'il y a un certain nombre d'élus dans les assemblées nationales, locales, qui disent « Mais comment les journalistes ne sont pas au-dessous des lois ?» Non, ils ne sont pas au-dessus des lois. Bien sûr, ça veut dire que quand un journaliste commet une faute, eh ben, il peut être jugé. Mais par contre, quand on a un délit de presse, c'est-à-dire une erreur peut-être parfois, enfin le tribunal est amené à en juger dans un cadre...
Ça peut être de la diffamation, ça peut être de l'insulte, etc.
Absolument, tout ça. Eh bien, que ça ne se traduise pas par l'emprisonnement du journaliste, mais simplement que la loi s'applique. Et quand on dit dépénalisation, les gens...
Je crois qu'on en enlève les peines.
Voilà, que les journalistes sont au-dessus des lois, pas du tout.
Il ne faut pas qu'ils aillent en prison pour leur travail.
Absolument.
Merci Jean Kouchner. On trouvera sur l'atelier des médias des informations, des liens complémentaires concernant ces assises, les 43e de l'UPF, et concernant aussi l'Union de la presse francophone, donc l'UPF. À bientôt.
À bientôt, merci.
On marque une courte pause dans l'atelier des médias. Rendez-vous dans quelques instants avec Macky Sall, président de la République du Sénégal.
Aujourd'hui, qu'on soit chef d'État, journaliste, tout ce qu'on veut, si on n'est pas connecté, c'est que vraiment on est out.
L'atelier des médias. La web émission participative. RFI. Ziad Malouf, Simon de Creuse.
Et vous, vous.
Atelier des médias, bienvenue. Si vous nous rejoignez, nous sommes cette semaine à Dakar, capitale du Sénégal, où se sont tenues les 43e assises de l'Union de la presse francophone. Cet événement a été clôturé par une déclaration de Dakar destinée aux chefs d'État et de gouvernement présents lors du sommet de la francophonie de cette fin de semaine. Extrait de cet appel lu devant l'Assemblée de l'UPF par Evelyne Essomba de la télévision publique du Cameroun.
Voici la déclaration de Dakar. Outil incontournable aujourd'hui, le numérique bouleverse chez les jeunes, notamment la consommation des médias. Il ne saurait y avoir de développement de la francophonie auprès de la jeunesse sans développement de ce nouvel outil. La francophonie doit s'employer à développer le numérique partout où les populations n'y ont pas encore accès, à créer les conditions d'une information pluraliste, libre et responsable. La presse, en conséquence, doit réinventer ses modèles économiques. Les plus grands journaux mondiaux ont mis des moyens, de grands moyens, pour aborder cette révolution, jouant à fond la complémentarité entre Internet et le papier. Même si l'équilibre n'est pas encore atteint, leur survie en dépend. L'écran sauvera l'écrit.
C'est en présence du président sénégalais que cette déclaration a été lue à l'Assemblée de l'UPF. L'Union de la presse francophone a d'ailleurs chargé Macky Sall de la transmettre à ses homologues lors de la conférence des chefs d'État et de gouvernement qui se tient ce samedi et ce dimanche à Dakar. Juste après la lecture de la déclaration, le président Sall a accepté de répondre aux questions de quatre journalistes présents aux assises. Khadija Ridouane du Maroc, Pape Madi Diop du Sénégal, moi-même et Jean Kouchner qui dirige l'UPF. C'est d'ailleurs Jean qui prend la parole en premier.
Je voudrais vous poser cette première question. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que les jeunes, d'une façon générale dans l'espace francophone, avec votre propre expérience, sont suffisamment bien informés et que faut-il faire pour essayer de développer les moyens d'information ?
Merci beaucoup. Eh bien, Jean Kouchner, je pensais que nous avions un deal. C'était de vous accompagner pour la bonne réussite de vos assises. Je ne savais pas qu'il fallait payer encore un tribut. Répondre, d'abord transmettre votre déclaration et la défendre devant les chefs d'État et de gouvernement, ce que je ferai avec grand plaisir. Mais s'agissant donc de la première question, elle pose la problématique aujourd'hui de ce que vous avez qualifié la révolution numérique. Notre monde est en train de subir des modifications extraordinaires du fait justement du numérique, de l'économie numérique, du fait de la révolution de l'information par les systèmes nouveaux d'information et de communication, que ce soit dans la banque, que ce soit dans le travail de tous les professionnels, quel que soit le secteur d'activité, aujourd'hui, le numérique a apporté une transformation radicale. Et la presse n'échappe pas à cette révolution. Elle est aussi valable pour les médecins qui, il y a 20 ans, 30 ans, travaillaient encore avec des échographies, des données analogique. C'est aussi vrai pour les géologues géophysiciens qui doivent faire l'exploration, qui travaillaient avec des cartes dans les vieux ordinateurs. Aujourd'hui, tout est numérique et ça offre des possibilités extraordinaires. Dans la presse, aujourd'hui, nous allons aller vers la télévision numérique en juin-juillet 2015. Et vous l'avez évoqué, le risque qu'il y a sur le papier, journal, objectivement, il faut dire, son avenir est incertain. Mais il ne faut pas pour autant s'en émouvoir, puisque ce qui est essentiel, c'est les contenus. Et les contenus resteront des écrits, que ce soit à travers le numérique, que ce soit sur l'écran, sur le papier, sur la télévision, il faudra des journalistes pour écrire, pour commenter. Et je pense que c'est surtout cela le rôle. C'est donc les contenus qui sont importants. Maintenant, il est clair que chaque journaliste aujourd'hui doit pouvoir être formé et capable d'utiliser les outils nouveaux des technologies de l'information et de la communication. C'est simplement à ce niveau qu'il faut qu'il y ait un changement de mentalité, que donc dans les écoles de formation de journalistes, qu'on forme en même temps le journaliste télé ou le journaliste radio ou le journaliste de la presse dans les outils qui seront son quotidien. Ce quotidien sans lequel il ne pourra pas évidemment développer son métier, quel que soit par ailleurs ses talents. Je pense que donc c'est une opportunité pour tout le monde et du fait que notre retard industriel pour les pays les moins avancés comme l'Afrique, nous pouvons compenser à pas de géant ce gap industriel par justement l'égalité dans la révolution numérique. Il n'y a pas beaucoup d'investissements à faire, il s'agit juste de se mettre à l'ère du numérique pour quand même participer dans le concert du monde d'aujourd'hui. Et nos jeunes, je pense, doivent être préparés, et le sont d'ailleurs. Maintenant, les États doivent faire des efforts sur l'accès à Internet, qui reste très cher. Et c'est pourquoi au Sénégal, j'ai décidé que déjà tous les campus universitaires et bientôt tous les lycées seront des espaces ouverts où le Wi-Fi sera gratuit et où l'accès à l'Internet sera gratuit pour l'ensemble des étudiants, des élèves, afin que déjà cet environnement leur soit familier et accessible. Voilà, on leur donne les chances d'être au même pied d'égalité que les jeunes du Nord et des autres pays.
Merci, Monsieur le Président. Je vais donner, si vous le permettez, la parole à Ziad Maalouf.
Alors nous allons parler dans quelques instants de journalisme, de la situation des journalistes, c'est Khadija qui va en parler, mais restons peut-être sur le numérique. J'ai eu la chance pour Radio France Internationale de couvrir les élections de 2012 où vous avez été élu. On avait à l'époque avec des blogueurs, on s'était amusé à comparer la stratégie numérique des deux principaux candidats, des candidats du second tour. Vous étiez loin devant Abdoulaye Wade dans ce domaine.
C'est normal.
Voilà, c'est normal. Quelle est votre pratique, quel est votre regard justement sur l'univers numérique? Vous avez été pendant ces élections par la suite assez actif sur Twitter, vous l'êtes moins. Est-ce que c'est quelque chose que vous regardez de près? Est-ce que de par vos fonctions vous n'avez pas le temps et vous avez une certaine distance par rapport à cet univers?
Merci Jade. Vous avez raison, j'ai été très actif sur le net à l'époque où j'avais plus de temps. Moi-même, j'animais ma page Facebook, moi-même je tweetais. Évidemment, depuis, ce n'est plus la même chose. Mais en fait, je suis en train de me réorganiser puisque je ne peux pas me permettre de régresser dans ce domaine. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont une donnée réelle dont il faut tenir compte pour la communication. Et je suis en train de me réorganiser pour que vraiment la page Facebook, tout comme le Twitter soit actif et que ce soit moi-même, autant que faire se peut, qui puisse participer au dialogue avec les amis. C'est vous dire qu'aujourd'hui, qu'on soit chef d'État, journaliste, tout ce qu'on veut, si on n'est pas connecté, c'est que vraiment on est out.
Vous avez mentionné d'ailleurs les changements par rapport au métier de géologue, de géophysicien, ça c'est votre métier d'origine, vous êtes aussi un ancien de la politique. Est-ce que vous avez vu des changements dans votre pratique, le fait de pouvoir être interpellé directement? Est-ce que vous voyez des interpellations? Est-ce que ça change? Est-ce que ça a changé votre métier d'homme politique?
Oui, je peux vous dire que même dans notre vie de chef d'État, la révolution numérique a changé les pratiques et le protocole, puisqu'il fut un temps, les règles du protocole, comme vous le savez, sont des règles immuables, complètement fermées. Aujourd'hui, elles sont dépassées aussi, puisque lorsqu'un président prend son téléphone pour faire un texto, on considère que c'est pas très sérieux, alors qu'il faut bien communiquer, ne serait-ce qu'avec ses plus proches collaborateurs, et je le fais par texto, avec un certain nombre très limité, pour pouvoir quand même échanger. On peut, tout en travaillant, voir le message qui arrive, répondre, donner des instructions, etc. Ça, c'est dans la pratique de tous les jours. Le mail, c'est pareil. Donc, ce sont aujourd'hui des outils, bien sûr, qui sont modernes, qui viennent changer les règles du protocole. Et il faut que le protocole, bien sûr, s'adapte lui aussi à ces nouveaux instruments, parce que c'est à l'ère du temps et nous devons être à l'ère numérique. Je pense que oui, ça a changé quelque peu ma façon de travailler et ma façon d'être.
Restons encore un peu dans le numérique et parlons des blogueurs. En mai 2013, le Sénégal a expulsé un blogueur opposant politique également tchadien, Makaylan Gebla. Ça a été assez incompris de la part de votre pays. Il a d'ailleurs reçu depuis l'asile politique en France, donc une sorte de légitimation quand même de son statut et des dangers qu'il encourait. Est-ce que c'était une erreur, un mauvais message envoyé à la communauté des blogueurs? Et plus généralement, quel regard vous portez sur donc les blogueurs, ces personnes qui, tout un chacun qui peut communiquer, donner ses opinions ou diffuser des informations sérieuses sur Internet et etc.
Je vous remercie. Alors, je dois vous dire que ce n'était pas une erreur du tout. Nous sommes un État organisé qui a une vieille pratique de l'hospitalité. Ce n'est pas un hasard si le Sénégal a déjà reçu plusieurs anciens chefs d'État, mais aussi plusieurs opposants qui sont dans notre pays aujourd'hui. Mais seulement notre pays ne peut pas aussi être un pays à partir duquel on organise une déstabilisation contre quelque régime que ce soit. On doit être très clair là-dessus. Nous ne sommes pas là pour orchestrer des changements anticonstitutionnels vis-à-vis de quelque pays que ce soit. Par contre, tous les journalistes qui, dans le respect de la liberté de la presse et de relations nécessaires, de bon voisinage entre le Sénégal et leur pays d'origine, ils n'ont aucun problème. Mais lorsque le gouvernement tchadien, à plusieurs reprises, avec des documents à l'appui, saisit notre gouvernement pour se plaindre des agissements de ce journaliste, de ce blogueur, et des interconnexions, ils sont même allés jusqu'à poser des actes vraiment de stabilisation, je ne sais pas ce que ça vaut. Mais il y a eu suffisamment de plaintes, et nous avons suffisamment interpellé le journaliste par nos services pour attirer son attention. Il a continué. Écoutez, la seule chose qu'on pouvait lui dire, c'est d'aller continuer son activité ailleurs, puisque nous avons quand même à respecter également et à préserver les relations de bon voisinage entre le Tchad et le Sénégal. Et il n'a pas été contraint, mais on lui a dit, vous choisissez le pays de votre choix. C'est lui qui a choisi le pays de destination. On l'a ramené jusqu'à la frontière de ce pays, comme c'était un pays frontalier. Eh bien, ça s'est passé comme ça. Mais nous avons encore chez nous énormément de journalistes qui viennent d'autres pays, et beaucoup d'autres pays d'ailleurs nous en veulent. Nous les protégeons. Mais le Sénégal, quand même, ne peut pas être un pays où on s'installe pour après essayer de déstabiliser. Tant que c'est la liberté de la presse, nous n'avons aucun problème. Mais voilà ce qui s'est passé pour le cas de ce journaliste, c'est rien d'autre.
Khadija Ridouane.
Monsieur le Président, donc vous parlez de liberté des journalistes. Vous avez parlé de liberté pour les journalistes qui s'installent au Sénégal. Qu'en est-il de la liberté des journalistes au Sénégal? Et j'en viens à la presse en ligne qui aujourd'hui s'installe, qui a une activité au Sénégal. Et il y a un débat sur la régulation de cette presse en ligne. Et je reprends les propos du ministre de la Communication qui disait que, évidemment, ce que vous avez dit en prélude de cette réunion, la formation, c'est important, mais il a dit en réprime. Alors, liberté ou répression?
C'est quoi la liberté? C'est ça la question. Mais au Sénégal, je vous rassure, je crois que Mme Baldiagne, qui n'est pas un modèle de tranquillité d'ailleurs, avec son journal qui n'est pas toujours très amical, nous avons au Sénégal vraiment une presse libre. Ça, quand même, ça ne dépend pas du président Macky Sall ou de qui que ce soit. C'est un acquis historique dans ce pays. Il n'y a pas un seul journaliste qui soit mis en prison pour des délits de presse. Je dis bien délits de presse. Alors, nous n'avons pas de problème de liberté peut-être même de trop de liberté. C'est peut-être un problème de trop de liberté. Mais toujours est-il que dans notre pays, la presse vient d'installer elle-même un tribunal des pairs. J'étais là à l'installation, à cette cérémonie d'installation. Et j'ai pris l'engagement en le disant, en ce qui concerne l'État, je peux vous dire que désormais, si nous avons des reproches à faire à des journalistes, nous nous adresserons au tribunal des pairs. Et nous avons maintenant un code de la presse qui a été élaboré depuis plusieurs années, qui est à l'Assemblée nationale, bloqué, puisque les députés avaient estimé que c'était un code peut-être attentatoire également à la liberté de certains citoyens, mais le groupe parlementaire qui est le nôtre a été donc invité à reprendre le document, et nous allons, nous-mêmes, gouvernement, reprendre le document pour le réintroduire, parce que ça date de 2010.
Donc 5 ans.
Voter le nouveau code de la presse qui consacre la dépénalisation des délits de presse.
Alors vous anticipez sur la question,
mais en même temps,
monsieur le président.
Il faut reconnaître qu'il y a parfois un problème d'abus. Les Sénégalais sont là, ils ne me demandent pas. Il y a un problème d'abus. La presse, c'est aussi l'équilibre dans l'information. Mais lorsque des non-journalistes s'invitent dans la profession, utilisent la profession comme un moyen de chantage, on n'est plus dans le journalisme. Ce n'est pas acceptable. Alors, donc, il y a, je pense, urgence à voter le code de la presse qui consacre totalement la dépénalisation des délits de presse pour les journalistes. Et il y a une nécessité à quand même faire de la régulation sur le net, puisque derrière l'anonymat du clavier, et parfois on détruit des vies. Et n'importe qui peut se réveiller, il prend son clavier, il crée un événement, il insulte tout le monde, et il suscite un dialogue derrière, et personne n'est responsable. C'est pas possible. Et je pense que tout ça mérite que peut-être des règles soient édictées pour éviter les abus, mais nous sommes dans le régime de la liberté de la presse.
Alors, monsieur le Président, permettez-moi d'insister. Vous avez dit que vous êtes avec la liberté. Vous l'avez dit aussi, le code de la presse qui prévoit la dépénalisation des délits de presse est au Parlement depuis 5 ans. Il y a une attente forte des journalistes professionnels sénégalais. Est-ce qu'il y a un calendrier précis pour que ce texte puisse passer?
Vous savez, il y a quand même un principe, c'est la séparation des pouvoirs. Sinon, j'aurais dit, je suis le chef de la majorité, mais il y a quand même un respect aussi pour le pouvoir parlementaire. Il faut qu'on négocie avec eux. Ça aurait été le gouvernement, j'ai dit, oui, la date c'est ça, je ne peux pas le faire s'agissant de l'Assemblée, puisque c'est elle qui avait... C'est même pas notre législature, c'est la législature précédente. Mais nous sommes toujours à l'Assemblée nationale. Donc j'ai déjà politiquement informé notre groupe que nous souhaitons reprendre ce code et le faire adopter, puisque en définitive, il n'y a pas de péril. Dès lors qu'au Sénégal, on ne met pas les journalistes en prison, même s'ils font des délits de presse. Donc, au fond, on gagnerait au moins à avoir le code, puisque de toutes les façons, il n'y aura pas de journalistes en prison. En tout cas, tant que je suis président de la République. Donc, on n'a rien à craindre. Hein? Le président de la commission des lois est là devant moi. L'honorable maître Djibril Ouar, j'en profite pour lui demander, le président de la commission des lois, de nous aider à faire adopter, ou alors que le gouvernement reprenne le texte pour le réenvoyer conformément aux règles de procédure en vigueur.
Alors c'est le Parlement qui agit sur le code de la presse, c'est la dernière question. Mais qu'en est-il? Il y a un autre domaine sur lequel le gouvernement peut agir directement, c'est les conditions d'exercice de la profession des journalistes. Il y a une convention au Sénégal, de convention collective qui date depuis 20 ans. On parle aussi de la remettre au goût du jour et de préserver les droits des journalistes, notamment des droits au salaire convenable, les droits à un exercice de profession. Alors la convention collective, est-ce que le gouvernement aujourd'hui peut s'engager devant cette assemblée de journalistes pour pouvoir justement la mener à terme et pouvoir améliorer les conditions d'exercice de profession journaliste? Merci.
Oui, certainement, cette convention qui date il y a plus de 20 ans, 25 ans, mérite d'être renouvelée. C'est clair que nous ne sommes plus dans les mêmes conditions économiques qu'il y a 25 ans. Donc, je suis tout à fait favorable à ce que la presse publique, en tout cas l'audiovisuel public, la presse publique, engage ces discussions. Elle est d'ailleurs mieux outillés que la presse privée, il faut dire les choses. Les journalistes dans le public sont mieux traités. Donc, moi, j'invite également la presse privée à travailler de concert avec la presse publique pour qu'il y ait une amélioration globale de la convention collective des journalistes et techniciens de la communication. Mais il y a un aspect qui dépendait un peu du nouveau code, c'est-à-dire la carte de la presse. En fait, qui est professionnel de l'information? Ça, c'est une question de fond. Parce que voilà un métier où tout le monde vient et rentre du jour au lendemain, sans qualification, sans formation. Quand même, pour être médecin, voilà, il y a une procédure. Pour être infirmier, il y a une procédure. Pour être même chauffeur, il faut aller passer le permis de conduire avant de prendre un véhicule. Et pour être journaliste aujourd'hui. Et ça, ce sont les journalistes eux-mêmes qui doivent défendre leur métier. Pour ne pas laisser tous ceux qui sont recalés, même du brevet ou du bac, se réveillent, ils se réveillent avec des titres. Non, c'est un problème sérieux. Et ce problème, la presse elle-même l'a bien identifié. Et dans le cadre de la nouvelle convention, il est défini, en tout cas, des dispositions pour avoir accès à la carte de la presse. Et à partir de ce moment, il sera plus facile vraiment d'améliorer de manière sensible les conditions de vie et de travail des journalistes. Parce que ce sera un nombre plus maîtrisé, plus limité. Les autres, nous sommes prêts à offrir des formations. Nous l'avons dit dans l'aide que l'État fait. Nous avons une aide à la presse. Pour le moment, qui est de 1 million et quelques d'euros, disons 700 millions de francs CFA, qui devrait aller peut-être au moins à 1 milliard dans un premier temps, l'année prochaine. Et nous pourrons l'augmenter régulièrement. Nous avons aussi fait des abandons de dettes pour la presse, une dette fiscale abandonnée, ce qui n'est pas très citoyen, mais enfin, il fallait le faire, parce que la presse a besoin d'être soutenue. Et il y a d'autres choses, d'autres aspects que nous sommes en train de regarder avec les éditeurs de presse pour justement faciliter les conditions d'exercice du métier, qui est un métier difficile, il faut le reconnaître, qui est un métier risqué. Les journalistes font partie des métiers les plus exposés au monde. Et c'est encore eux qui payent le plus lourd tribut dans les zones de guerre, dans les zones de conflit et partout ailleurs. Donc, nous sommes d'accord qu'il faut les protéger et il faut les mettre dans les meilleures conditions. À ce niveau, mon gouvernement n'a aucun problème pour vraiment faire le maximum qui soit pour que la presse sénégalaise, en tout cas, continue à être une presse libre, mais une presse de qualité comme elle l'a toujours été par le passé.
Pape Madi Diop.
Voilà, merci Kouchner. Monsieur le Président, vous l'avez dit tout à l'heure, juin 2015, c'est la date que sont fixées plusieurs États pour donc exercer la mutation technologique vers le numérique. Alors, qu'est-ce qui va être mis en place pour que le Sénégal soit au rendez-vous de 2015? Il y a un problème, il y a une crainte qui est là, un risque réel pour la production des contenus audiovisuels. Est-ce que l'État peut accompagner les télévisionnels tout au début de ce basculement, Monsieur le Président?
Je pense que le passage au numérique pour la TNT, c'est une obligation. L'Union internationale des télécommunications a décidé que c'est juillet 2015 et le Sénégal sera au rendez-vous. Donc nous aurons une capacité démultipliée par X, mais tout cela mérite quand même qu'on regarde les contenus.
Monsieur le Président, si vous permettez, sur la question des contenus, est-ce que vous ne craignez pas qu'avec l'arrivée d'investisseurs qui sont intéressés par les aspects commerciaux des nouvelles télévisions qui viennent de Chine, des États-Unis ou d'ailleurs, est-ce que vous ne croyez pas qu'il faut encourager plus la production réelle, nationale, représentant la culture de chaque pays concerné?
Donc vous nous posez là un vrai problème que nos sociétés connaissent depuis très longtemps. Vous vous rappelez le débat à l'UNESCO déjà sur la nécessité de protéger la culture, l'information. Il y avait un terme consacré qui ne me vient pas. Hein? C'était le nouvel ordre mondial de la communication, de l'information. Mais il se prolonge jusqu'à présent. Je pense que même au niveau européen, il y a eu un débat assez houleux sur la nécessité de protéger la culture, le cinéma, face aux géants d'Hollywood, face à tous ces capitaux qui ravagent tout. De la même façon, nous avons besoin, nous, de protéger une certaine production locale, parce que diversifier parce qu'enrichissante. Et c'est la diversité qui fait la richesse. Quelque part, nos États, notre organisation commune de la francophonie doivent veiller à ce que les productions locales soient promues et protégées. Donc promotion, oui, protection également, dans une certaine mesure, parce qu'il y va aussi de notre identité. Notre identité culturelle, de notre identité tout court, pour que, quelque part, nous puissions nous-mêmes promouvoir ce que nous sommes. Et c'est un peu le sens du banquet du donner et du recevoir, si cher au président Senghor. C'est de donner, mais aussi c'est de recevoir. Et c'est dans ce mélange que nous arrivons à trouver l'équilibre dans la société, donc moderne.
Merci au président Macky Sall qui a accepté de répondre à nos questions. Merci également à mes confrères et au public de l'UPF. Je précise que le président sénégalais n'avait pas connaissance des questions que nous allions lui poser. Il a donc répondu spontanément. Vous retrouverez sur l'atelier des médias la version longue de cet entretien.
Rejoignez la communauté de l'atelier des médias sur Internet.
http://atelier.rfi.fr.
C'était l'émission numéro 363 de l'Atelier des médias, proposée par Marie-Catherine Beuth, Francis Pisani, Manon Mella, Mélissa Barra, Dilet Sadawi, Julnar Douek, Raja Yahyaoui, Simon De Creuse, Pierre Chaffanjon et Ziad Malouf. La semaine prochaine, nous serons encore à Dakar, qui vient d'accueillir un hackathon, une rencontre marathon de développement informatique réunissant de jeunes francophones du monde entier. Ça s'appelle Hack Explore. N'hésitez pas à nous suivre, à nous lire, à nous contacter sur Twitter, Facebook, atelier.rfi.fr, mondoblog.org, libiablog.org et arablog.org. Salut à toutes et à tous, à la semaine prochaine.
C'est fini ou c'est pas fini?
Ah ouais, des bonus.
Des bonus.
Ben, ça continue sur Internet.